الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le premier du mois Dhul Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 18 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous étudions ensemble le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, le revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du 12e siècle. On s'est rendu au 58e chapitre de ce livre que l'auteur rahimahullah a intitulé Babu an-nahi an sabbi ar-rih. Donc un chapitre dans lequel il parlera de l'interdiction d'insulter le vent. L'interdiction d'insulter le vent. Et ce qui est voulu par ce chapitre, c'est de montrer que le fait d'insulter ou de maudire le vent est une chose interdite en islam, car elle comporte le rejet du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le vent, en réalité, n'agit pas de lui-même. Le vent agit seulement sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'agit pas de lui-même. Et vous constatez que dans le titre du chapitre, l'auteur, rahimallah, n'a pas cité le jugement d'insulter le vent. Et comme vous savez, la règle de base dans les fondements de la jurisprudence au sol fiqh, al-aslu fi an-nahi at-tahrim, la règle de base dans les interdits dans la religion, c'est l'interdiction et non pas la détestation, et que c'est seulement détestable. Ce qui est interdit, c'est la chose, si jamais tu l'as fait, tu prends des péchés. Et si tu la délaisses, tu prends des hasanat. Amma, ce qui est détestable, c'est les choses, si on les fait, on ne prend pas de péchés, et si on les délaisse, on est récompensé. Al-makroh wal-muharram. Avec d'autres détails que ce n'est pas le moment de citer ici. Lakin, d'une manière générale, c'est ça, la signification et la différence entre les deux. Donc ce qui est voulu ici, c'est que c'est effectivement interdit. Et ça rentre dans les grands péchés. Et le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent, si vous vous rappelez, dans le chapitre, un des chapitres précédents, on a parlé de sabb ad-dahr, d'insulter le temps. Les hommes de science disent que le chapitre précédent est un chapitre qui a un sens plus général. Ça englobe l'interdiction de tous les événements qui se déroulent dans le temps. Car c'est Allah qui a tout décrété. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout prédestiné. Et insulter ces choses-là reviennent à insulter celui qui a ordonné qu'ils agissent de cette manière-là. Donc le chapitre précédent est plus général. Et ce chapitre est un cas particulier d'insulter le temps. Insulter le vent. Insulter le vent. Car celui qui insulte le vent, il remet en cause à la fois la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il remet en cause la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il remet en cause son décret et son destin, son omnipotence, sa gestion de sa création. Et ça revient finalement à une insulte à l'égard de celui qui a donné cet ordre. Si on prend un exemple pour les créatures, si tu vas critiquer et insulter une voiture, prenons l'exemple d'une voiture, ou là une maison, la construction d'une maison, si tu critiques et t'insultes cette maison, sa construction, ou là, la fabrication et l'assemblage d'une voiture, en réalité, ce n'est pas une insulte à la voiture, ni à la maison. C'est une insulte à celui, à l'ingénieur qui a conçu, à l'architecte qui a fait les plans, à celui qui a donné les ordres de construire ou là de bâtir de cette manière. Ça, peut-être, ça peut rapprocher la compréhension de ce point. Pourquoi ce n'est pas autorisé d'insulter ces créatures d'Allah qui agissent tout simplement conformément aux ordres d'Allah. Et ça, on va le comprendre dans les textes. Et donc ça, forcément, c'est quelque chose qui diminue à Tawhid. Car pourquoi ça le diminue et ça ne l'annule pas? Car celui qui insulte le vent, il ne pense pas insulter directement Allah. S'il pensait à insulter Allah subhanahu wa ta'ala directement, ça, ce n'est pas quelque chose qui diminue le tawhid, c'est quelque chose qui l'annule et qui l'invalide. C'est pour ça qu'il n'y a pas de divergence entre les savants de l'islam que celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala a apostasié, il est sorti de l'islam. Sauf si c'est un fou qui n'a pas sa raison, il ne sait pas ce qu'il dit. Amma quelqu'un qui sait ce qu'il dit, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et il n'y a aucune divergence sur ce point-là entre les savants de Al-Sunna wal-Jama'a. Taïb. Le lien entre ce chapitre, le lien entre ce chapitre et les trois catégories de tawhid. Ou l'afon, c'est pas par rapport à ce chapitre. C'est par rapport au chapitre suivant, qui a un lien entre les trois catégories de tawhid. Lakin ici, c'est comme ce qu'on a vu dans Sabb al-Dahr, c'est le même jugement. C'est quelque chose qui est interdite et qui diminue à tawhid. Qui diminue à tawhid. Et dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, a cité un seul hadith. Hadith Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, a qal, La tasubbu riha, fa idha ra'aytum ma takrahuna, faqulu, Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi rrihi, wa khayri ma fiha, wa khayri ma umirat bih, wa na'udhu bika min sharri hadhihi rrihi, wa sharri ma fiha, wa sharri ma umirat bih. Ce hadith a été authentifié par l'imam At-Tirmidhi et au sujet de son authenticité et que ce soit une parole du prophète, il y a une divergence entre les hommes de science. Il y en a qui voient que c'est de la parole du prophète et il y en a qui voient qu'il est authentique mais seulement de la parole de Ubay ibn Ka'b. Et en réalité, ça ne change pas grand-chose au sujet des jugements et des enseignements qu'on puisse en tirer. Car Ubay ibn Ka'b ne va jamais parler d'un interdit de lui-même. Forcément, il a entendu de Nabi alayhi salatu wa salam. Taïb. Donc, Nabi alayhi salatu wa salam a dit dans le sens, il a dit n'insultez pas le vent. La tasubbu riha. N'insultez pas le vent. Et quand vous voyez ce que vous détestez, yani si on va voir dans l'explication de ces paroles, yani si la personne est touchée par un mal à cause du vent, si vous voyez ce que vous détestez, alors n'insultez pas le vent, mais plutôt dites « Oh Allah, nous te demandons le meilleur de ce vent et le meilleur de ce qu'il porte, et le meilleur de ce qui lui a été ordonné. » Et là, vous voyez ensemble avec moi que le vent, il reçoit les ordres de la part d'Allah. Pour ça, on dit de ce qui lui a été ordonné par Allah. Et nous te demandons ta protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il porte, et le mal de ce que tu lui as ordonné. Taïb. Donc le Nabi alayhi salam nous enseigne de ne pas insulter ni de maudire le temps quand on est touché, quand il nous cause un mal. Quand il nous cause un mal, ni le vent, il peut être la cause de certaines maladies, la cause de certaines catastrophes, et ainsi de suite, de la démolition d'une maison, de l'écroulement d'un bâtiment. Donc le vent, effectivement, peut être la cause d'un mal. Mais le vent, il n'agit pas de lui-même. Il agit tout simplement selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on est touché par un malheur à cause du vent, notre devoir, ce n'est pas de l'insulter, mais plutôt de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Et ça, c'est le devoir du croyant par rapport à tous les malheurs et toutes les épreuves par lesquelles il est touché. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tout malheur qui vous frappe, c'est dû aux œuvres commises de vos propres mains. Et Allah pardonne beaucoup. Et Allah pardonne beaucoup. » Donc tous les malheurs par lesquels le serviteur peut être touché, en réalité, ce n'est que les fruits de ce que ses mains ont semé. Il ne récolte que ce que ses mains ont semé. Donc, quand on est touché par une épreuve, notre devoir, c'est le repentir. Et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de patienter face au décret d'Allah. Car ce que Allah a décrété, tu vas le subir dans tous les cas. Le fait de te rebeller, le fait de t'opposer ne va rien changer du décret d'Allah. Vous savez que le décret universel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il arrive dans tous les cas. Que la créature est d'accord ou pas. Par contre, celui qui accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va bien vivre l'épreuve. Et ça, vous le voyez. Vous voyez que le kuffar, quand ils sont touchés par des épreuves un peu difficiles, comme la perte d'un proche, un divorce, ou la mort d'un enfant, des choses dures, beaucoup d'entre eux se donnent la mort, ou la suicide, ou la tombe dans la consommation de l'alcool ou les drogues. Ils n'ont pas de patience. Mais quand est-ce que ça va se manifester? Quand il sera touché par une épreuve difficile. Et il y en a pour qui Allah facilite de revenir vers Allah quand il est touché par l'épreuve. Et c'est ça l'attitude juste. Yani l'épreuve par laquelle est touché le croyant est un bien pour lui, car ça le ramène au repentir. Ça le ramène à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des choses qu'on voit énormément autour de nous et que vous avez certainement vu autour de vous. Combien de personnes ont été touchées par, entre parenthèses, une épreuve, un mal? Et ça, je le connais beaucoup dans le domaine du foot. Là, je vois beaucoup de frères, mashallah, c'était des joueurs de foot professionnels. Après, il a une blessure très grave, il abandonne, et alhamdoulilah, il voyage, il commence à apprendre sa religion, à apprendre la langue arabe, et à être dans la sunna. Donc, il n'y a pas de mal dans ce que Allah fait. Le mal, il est dans la créature. Allah, il ne fait que le bien. Donc, quand bien même tu es touché par un mal, si tu te conformes à la législation d'Allah, déjà tu vas vivre bien l'épreuve. L'épreuve, c'est la même que ce soit traversé par un croyant ou par un mécréant. Lakin, tu vois une grande différence entre le croyant et le mécréant dans les épreuves. Surtout quand c'est des épreuves dures. Le kafir, il est bien tant qu'il a tout ce qu'il veut. Amma al-mu'min, il accepte les décrets d'Allah. Et ça, c'est dans le bas monde. Sans parler de tout ce qu'il attend comme récompense pour avoir accepté et été toujours dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les moments faciles ou difficiles, dans ce qu'il aime ou dans ce qu'il déteste. Même quand il est touché par une chose qu'il déteste. Et ça, c'est le degré minimum par rapport à ces situations-là. C'est le degré de la patience. C'est d'accepter quand bien même tu détestes. Lakin, on peut évoluer dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça ces chapitres, même si ce ne sont que des paroles que la personne prononce, mais ils ont un fort lien avec l'unicité d'Allah. Quand on dit avec l'unicité d'Allah, on dit avec la connaissance d'Allah et sa mise en pratique. Et celui qui connaît Allah, il voit le bien dans toute chose. Il voit Allah bienfaisant dans tout ce qui lui arrive. Il est touché par une maladie, il voit l'expiation des péchés. Il voit l'élévation dans les degrés. Et il voit énormément de sagesse. Il faut savoir qu'on ne peut jamais connaître toutes les sagesses d'Allah. C'est pour ça que quand vous étudiez dans Usul Fiqh l'analogie qu'on appelle Qiyas, dans laquelle on parle des causes de la législation, pourquoi ça a été interdit, pourquoi ça a été autorisé, pourquoi ça a été recommandé, vous voyez des grandes divergences entre les hommes de science. Chacun va exprimer selon sa connaissance d'Allah et la profondeur de sa connaissance de la religion de l'islam. Plus il connaît Allah, plus il va voir de sagesse dans la même chose. Donc il est interdit d'insulter le vent, mais le devoir du croyant, c'est de se repentir. Et les épreuves est une manière d'éduquer le serviteur et de le réformer et de le ramener à ce qui est meilleur pour lui. Car si on prend l'exemple de la maladie, quand la personne est malade, elle perd ses forces, yani, a de la faiblesse, ça peut être la cause de revenir et de se rapprocher d'Allah. Quand vous voyez ce que vous détestez, c'est-à-dire vous voyez une chose que vous détestez dans le vent. Par exemple, le vent, il vient avec une très forte chaleur, comme le vent qui s'appelle Dabour, qui vient de l'ouest. Ou là, un grand froid, comme le vent qui vient de l'est, qui vient avec le froid. Ou là, une force qui cause des dégâts. Donc, si vous voyez ce que vous détestez du vent, alors dites, Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih. Ou Allah, nous te demandons du bien de ce vent. Car le vent, il peut venir avec le bien, comme il peut venir avec le mal, selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, il y a un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wa salam. Il a été interrogé par Aisha radiallahu anha, au sujet d'un comportement qu'elle a constaté chez le prophète, alayhi salam. Le prophète, alayhi salam, quand il voyait des nuages qui commençaient à se rassembler dans le ciel et le ciel il commence à devenir gris, il était en panique. Alayhi salatu wassalam. Et ça l'a intrigué. Elle lui a dit au messager d'Allah, pourquoi quand le ciel il devient gris ou il y a des nuages qui commencent à apparaître dans le ciel, t'es pris par cette panique? Jusqu'à ce qu'il pleuve. Quand la pluie elle descend, yani, ça s'arrêtait. Et elle lui a demandé, pourquoi tu réagis de cette manière? Il lui a dit, oh Aïcha, la'allahu ya Aïchatu, kama qala qawmu Aad, falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadha aridun mumtiruna. Donc il lui a dit, peut-être que ce vent, il est comme le vent qui a été envoyé sur le peuple de Ad. Vous savez, le peuple de Ad qui ont été châtiés par un vent. Il lui a dit, peut-être que c'est comme le vent qui a été envoyé sur le peuple de Ad. Et le vent qui a été envoyé sur le peuple de Ad, c'est Dabour. le vent qui vient de l'ouest, qui vient avec la forte chaleur. Et ça, comme Allah nous a dit d'eux, et cité dans ce hadith, quand ils ont vu un nuage, alors qu'ils voyaient apparaître un nuage qui avançait vers leur vallée, ils ont dit, voici un nuage qui va nous donner beaucoup de pluie. Allah dit, c'est plutôt ce que vous appréciez de voir venir un vent chargé d'un supplice douloureux. Il lui disait, qui me garantit que ce n'est pas un vent ou ce n'est pas des nuages qui viennent avec le châtiment? Et non pas avec la miséricorde. Car le vent, il peut venir avec la miséricorde, la pluie, la bonne pluie bénéfique pour les gens, comme il peut venir avec le châtiment. Et ce hadith indique que le croyant ne doit jamais se sentir à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment le prophète alayhi salam il réagissait alors qu'il le messager d'Allah alayhi salam. Et également, il indique le devoir du croyant quand il est touché par des épreuves ou quand les temps changent. Ou quand sa situation se dégrade, c'est pas de se rebeller contre Allah, mais de s'empresser à adorer Allah et à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, il nous indique également la grande clémence et la grande pitié qu'avait le prophète alayhi salam pour les membres de sa communauté. Car il avait peur pour eux que ce soit un châtiment à cause de leur péché. Alayhi salatu wassalam. Et dans ce hadith, Nabi alayhi salam lui a enseigné ce qu'il faut dire. Et ça fait partie des invocations authentiques, sans aucune divergence, dans laquelle on dit Allahumma inna as'aluka khayraha. Ou Allah, je te demande le bien de ce vent. Wa khayra ma fiha. Et le bien qu'il comporte. Et le bien avec lequel il a été envoyé. Wa khayra ma ursilat bih. Ça veut dire que le vent est envoyé par Allah. Il peut être envoyé avec le bien, il peut être envoyé avec le mal, tout ça pour une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un bien dans tous les cas. Si c'est un vent qui porte des épreuves ou un malheur pour les gens, ça peut être la cause qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils acceptent ses décrets. Et s'il comporte un mal, ça peut être un châtiment dans ce bas monde pour ses ennemis avant le châtiment qui les attend dans l'au-delà. Nabi alayhi salam a dit « Nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur » Dans le hadith authentique, Nabi sallallahu alayhi salam a dit « Nusirtu bis-saba » As-saba, c'est le vent qui vient de l'Est. C'est le vent qui vient de l'Est, avec lequel Allah a permis la victoire et le triomphe du prophète, alayhi salam, notamment dans la bataille des coalisés. Vous savez que plus de 10 000 soldats se sont regroupés autour de Médine, avec un objectif d'exterminer l'islam et les musulmans. Et après un encerclement de plusieurs jours, Allah subhanahu wa ta'ala a finalement accordé la victoire à ses alliés et à ses soldats et à son armée. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce qui compte, c'est d'être dans la religion d'Allah, d'être dans l'obéissance d'Allah. Et ne pas demander la victoire aujourd'hui ou demain. Quand Allah il le décidera, ça arrivera. Lakin, ce qui compte, est-ce que nous, on est dans ce que Allah aime et agrée? C'est ça le souci qu'on doit avoir. Et aussi quand on voit certains de nos frères ou de nos sœurs qui subissent des injustices, ça doit donner lieu à des adorations, comme le fait d'invoquer Allah en leur faveur et de les aider avec ce qu'on peut. Chacun selon sa capacité, et Allah ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. Donc il y a un bien dans tout ce que Allah fait. Et plus tu connais Allah, plus tu connais ses noms et ses attributs, plus tu vas réaliser ces sagesses et ce bien qu'il y a dans toute chose. même dans une très grande épreuve que traverse la communauté. Là, quand on est ignorant de qui est Allah et de son omnipotence, avec une parole, tout peut changer. Et de sa gestion parfaite de sa création, on commence à faire des suggestions. Si seulement c'était comme ça, si seulement ça pouvait ne pas être ainsi, on commence à faire des suggestions à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne connaît pas la perfection de sa gestion. Et on ne connaît pas sa sagesse. Et on ne connaît pas sa miséricorde et sa bienfaisance. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le chapitre suivant, d'une manière encore plus précise. Plus précise. Taïb. Donc, le Nabi, je parlais de l'Khandaq, ou l'Ahzab. L'Khandaq, il y a les tranchées, car les musulmans ont creusé des tranchées, les coalisés, car la plupart des tribus de l'Kufr se sont mis ensemble pour exterminer les musulmans. كيف يقولوا سبحان الله l'expression une fois pour de bon là halka une fois pour toutes une fois pour toutes une bonne fois pour toutes je savais qu'il me manquait une partie quelque part barakallah fikari une bonne fois pour toutes. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala a fait autrement. Et finalement, Allah a secouru ses alliés avec un vent, As-Saba. Il a envoyé un vent glacial qui a arraché leurs tentes et qui les a dispersés et ils sont partis. Sans arriver à leur fin. Et Allah a dévoilé, regardez dans les épreuves, Allah il dévoile les ennemis cachés de l'islam. Allah a dévoilé plusieurs ennemis qui étaient cachés jusqu'à cette épreuve-là. Notamment la tribu qui était en pacte avec les musulmans, la tribu de Bani Qurayda. Les juifs de Bani Qurayda. Ils étaient dévoilés dans cette épreuve dure qu'a touché les musulmans. Et c'est dans les moments difficiles que tu vois tes vrais amis et tes ennemis. Quand tout va bien, tout le monde est ami avec toi. Pour ça, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, les amis sont de trois catégories. Il y a des amis de profit. Il est avec toi tant qu'il profite de toi. Par exemple, selon le profit, l'argent, ou le statut, ou le coup de piston, selon la nature du profit que lui cherche. Tant qu'il trouve en toi ça, il est ton meilleur ami. Il est ton ami intime. Le jour où il n'y a plus ça, il t'abandonne et même il peut devenir ton ennemi. Hada, la première catégorie. La deuxième catégorie, il a cité Sadiqul Ladha. L'awwal est Sammahu, l'iman yahummuhu bil arabiya, Sammahu Sadiqul Manfa'a. Al-Thani Sammahu Sadiqul Ladha. Un ami de plaisir. Il a un plaisir partagé avec toi. Il a une passion que vous partagez, ou là il aime tout simplement te rencontrer parce qu'il te trouve agréable dans les discussions, il se fait plaisir à te rencontrer. Et le troisième, le vrai, que tu dois chercher, et il est difficile à trouver, c'est Sadiqul Fadila, l'ami de la vertu. Et peut-être, ce genre d'ami, on peut le détester. C'est celui qui va te conseiller, qui va t'interdire le mal, qui va te blâmer quand tu fais des choses pas bien, qui va vouloir pour toi le bien, surtout le bien dans la religion. L'ami de la vertu. Hada huwa le vrai ami. Donc, le Nabi a dit, « Nusirtu bis-saba wa uhlikat i'ad » On périt par le vent de Dabour. Donc le vent, il peut venir avec la miséricorde, comme le triomphe et la victoire des croyants. Il peut venir avec un bien, comme la pollinisation, ils ramènent le pollen et comme ça, يعني, كيفاش كيقولوا يعني, المهم, هاد la fécondation entre les arbres, كيفاش كيقولوا fécondation ou pas, المهم, هاد, je pense que vous m'avez compris. Il peut venir avec beaucoup de bien, il peut venir avec des bonnes odeurs, le vent, et il peut venir avec du mal également, comme arracher des arbres, démolir des maisons, tuer des bêtes, et ainsi de suite. Selon ce que Allah lui ordonne. Combien de temps vous reste encore? Est-ce qu'on passe au chapitre suivant? Combien de temps? Une heure. Mashallah. Donc on va faire le chapitre suivant. Là, il me reste. Ça fait, c'est suffisant. Ensuite, il a dit, Babu qawlillahi ta'ala, yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya. Yaquluna hal lana min al-amri shay. Donc ce chapitre est très lié à ce chapitre qu'on vient de voir, dans le sens où il parle d'un phénomène qui, en général, va mener vers insulter le temps, insulter le vent, et ainsi de suite. C'est le fait de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de penser, d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mauvaise opinion, il ne faut pas croire que c'est quelque chose que les gens expriment. Tu ne vas pas trouver en général un musulman qui exprime une mauvaise opinion qui le dit clairement et ouvertement. Allah est injuste parce qu'il a fait ça. Ça, ce n'est pas un musulman. Lakin, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ça dans le cœur. Le fait de ne pas l'exprimer, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans le cœur. La personne, elle peut avoir des pensées, des mauvaises pensées d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans se rendre compte. C'est pour ça, parmi les devoirs du croyant qui cherche sa sauvegarde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de toujours veiller sur son cœur. Il faut que tu aies un contrôle sur ton cœur. Un contrôle quotidien pour les degrés les plus élevés dans la foi. Un contrôle hebdomadaire. Un contrôle mensuel, le mohim, il faut que tu fasses une visite de ton cœur et que tu vois où est-ce que tu en es par rapport au cœur. Car le cœur, et Aïkhoa, c'est l'origine de tout bien. Et le mal et les vices qu'on puisse avoir dans notre cœur peuvent donner lieu à beaucoup de péchés dans l'apparence. Alors que si on regarde bien, on va trouver que l'origine, c'est les maladies du cœur. C'est pour ça que le croyant a toujours besoin de veiller sur son cœur et de soigner son cœur de toutes les maladies par lesquelles il peut être touché. Et malheureusement, c'est pour ça que les salafs, ils donnaient énormément d'importance à l'adab, les bonnes manières, le bon comportement, les bonnes moralités. Ils donnaient énormément d'importance à ce domaine avant de commencer la demande de science. Yani la science, en réalité, elle revient principalement à la science de la croyance avec laquelle tu connais Allah, la science de la jurisprudence avec laquelle tu sais comment adorer Allah, la science de l'adab et les outils de la science avec lesquels on doit commencer en premier. Lakin Salaf, il donnait beaucoup d'importance à ce adab, à purifier le cœur des maladies avant de les remplir avec les choses bénéfiques et profitables. Vous connaissez tous la parole de Cheikh Al-Albani, At-Tasfiya wa At-Tarbiya. Tasfiya, il la cite en premier. Et les savants de Salaf, ils disaient At-Takhliya qabla At-Tahliya. Faut vider avant de commencer à remplir. Car si tu remplis un cœur malade avec des sciences bénéfiques et profitables, tirées de le Coran et de la Sunna, peut-être que cette science, elle va devenir un danger pour toi, une cause de grand égarement. Et tu deviendras pire qu'un ami qui n'a jamais appris. C'est pour ça que les gens de science, quand ils s'égarent, ils peuvent devenir plus graves que l'awam. Et même encore pire dans l'égarement. Écoutez bien ce que je vais dire. Et ce que je vais dire, ce n'est pas une parole que je sors de ma tête. C'est, je l'ai lu de Cheikh Rabi'i, rahimahullah. Yani, On a dit, l'homme de science, la personne qui est dans la science, quand elle dévie, quand elle s'égare, elle peut faire des choses que même l'ami en général ne fait pas. Et pire encore, dans ceux qui demandent la science, qui suivent la salafia et qui suivent la sunna, quand ils dévient, ils peuvent devenir des ennemis pour les gens de la sunna, pire que les sectaires et les hizbiyyins. Comme Cheikh Rabi'a rahimahullah dit. Et ça, c'est des choses qu'on voit d'une manière flagrante à notre époque. On voit des gens qui sont en lutte permanente contre les adeptes de la sunna, alors qu'ils n'ont aucun effort, ni dans la da'wah, ni dans la science, ni dans aucun bien, à ma connaissance, de ces personnes que je connais personnellement. Lakin, leurs flèches sont toutes orientées vers al-sunna wal-jama'a. Et en général, comme on m'a rapporté, de personnes qui ont parlé avec des gens de cette catégorie, de ce type de personnes, quand ils sont avec les gens proches d'eux, et qu'ils avouent, qu'ils fassent des aveux, ils reconnaissent la réalité, quand ils leur demandent pourquoi ils sont devenus comme ça, qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils évoquent en général « dhunubul khalawat ». Dhunubul khalawat, les péchés que la personne commet quand elle est seule. La personne qui montre une apparence de piété, une apparence de crainte d'Allah, qui donne une image de science et du suivi de salaf, lakin quand il est tout seul, rien. Quand il est tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un loup parmi les loups qui porte des vêtements d'homme. Il fait des péchés. Peut-être que même Shaitan, il s'étonne de ses péchés. Lakin, sachez, Aïkho, que ça, c'est pas pour minimiser l'importance de la science. La science, c'est la clé de tout bien. Mais attention à être dans la demande de science sans être dans la mise en pratique de la science. Ce rappel, on a toujours besoin de se le faire. On apprend, la science, c'est pas une finalité. C'est pas un objectif en soi-même. La demande de science est un objectif pour adorer Allah. Et donc si tu n'adores pas Allah selon ta science, tu deviendras comme cet homme qu'Allah a décrit dans le Coran, au sujet duquel il nous a cité une parabole incroyable. Il l'a comparé à un chien. Le chien, yelhath. Là, je vais sortir le verset. In tahmil alayhi yelhath. Yalhath, comment ils disent? Donc dans ce verset, Allah dit فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dans le sens approximatif, Allah nous cite une parabole de cet homme à qui Allah a donné beaucoup de science, mais qui n'a pas œuvré selon sa science. Il est allé à l'encontre de sa science. Allah il dit ne fais pas ça, lui il le fait. Allah il dit fais ça, lui il ne le fait pas. Allah lui a donné la parabole, il a dit tel l'exemple il a dit il est comme le chien qui, si tu fonces sur lui, un chien, si tu veux l'éloigner, il allait. Si tu fonces sur lui, allait. Hada wa le mot que je cherchais, lakin je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Yelhef. Allait. Et si tu le laisses, allait. Tel est l'exemple des gens qui ont démenti, renié nos signes. Telle l'image des hommes qui rejettent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, telle l'image d'un chien, quand il est chassé ou laissé, il ne cesse de allaiter. Est-ce que vous comprenez ? Le chien qui allait, c'est quand il sort sa langue en permanence. Yelhef. Comme s'il est épuisé, comme s'il est fatigué. Le chien, il est tout le temps comme ça. Même quand il est assis tranquillement, il est dans cet état. Ça veut dire qu'il est fatigué en permanence. Il a donné l'exemple du chien. Nas'alullah salam al-afir. Le chien, comme ça a été cité dans ce verset. Taïb. Donc dans ce chapitre, l'auteur, rahimallah, a voulu nous rappeler ce point extrêmement important. Et à ce sujet, il a cité deux versets et la parole de l'imam Ibn al-Qayyim qui explique ces sens-là et qui les résume d'une manière extraordinaire. Le verset, Allah dit « Yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya » Yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya Yaquluna hallana min al-amr shay' قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Donc il y a des versets qui précèdent cette partie que l'auteur, rahimallah, a cité. Wallahu alam, en lisant l'intégralité des versets, nous allons comprendre encore mieux ce qu'il a voulu par ce point. Donc le verset est dans Sourate Ali Imran. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. طيب هذا هو. الله سبحانه وتعالى dit dans le sens approximatif, puis il fit descendre sur vous après l'affliction une quiétude et un sommeil enveloppant une partie d'entre vous, cependant qu'une autre partie, se préoccupant d'elle-même, nourrissant d'Allah des opinions autres que la vérité. Yani, il pense du mal d'Allah. Il pense de lui autre chose que la vérité, qui est la bonne opinion. Rappelant celle du temps de l'ignorance, car penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir une mauvaise opinion, c'est pas la manière d'agir des croyants. C'est la manière d'agir des gens avant l'islam. Les gens de la période anté-islamique, al-jahiliya. Cela disait, mais quelle part avons-nous donc prise à ce commandement? Dis-leur, le commandement tout entier revient à Allah. Ils dissimulent au fond d'eux ce qu'ils ne te montrent pas. Ils disent, si nous avions pris part au commandement, nous ne serions pas fait tuer ici même. Dis, même si vous étiez restés dans vos maisons, ceux pour qui il était écrit de mourir seraient quand même sortis vers leur dernière demeure. Tout cela pour qu'Allah éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines et purifie ce qu'il y a dans vos cœurs. Car Allah sait parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Wallahu alimun bidhati as-sudur. Donc, ça c'est les hypocrites. C'est les propos des hypocrites qui ont pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont pensé de lui autre chose que la vérité. Ils ont pensé qu'Allah n'allait pas secourir ses alliés et accorder la victoire à son prophète ainsi qu'à ses compagnons contre leurs ennemis, qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, Allah dit « Al-dhannina billahi dhanna as-saw'i alayhim da'iratu as-saw'. » Al-dhannina billahi dhanna as-saw'i alayhim da'iratu as-saw'. Donc ça c'est dans sourate Al-Fath. Dans le sens approximatif, Allah nous dit à leur sujet, yani après avoir parlé des hypocrites, il a dit « Le malheur retombera sur eux et ils encourent la colère d'Allah qui les maudira et leur préparera la gêne. » Al-dhannina billahi dhanna as-saw'i alayhim da'iratu as-saw'. en parlant de l'munafiqin et des associateurs. Dans le verset en arabe, Allah dit « ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء » Allah châtiera les hypocrites, hommes comme femmes, et les associateurs, hommes comme femmes, ceux qui pensent d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal, ceux qui pensent le mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah, alayhim dha'iratu sawt. Donc c'est la partie que l'auteur, rahimallah, a citée. Donc ceux-là, ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse. Et ils pensent que, après leur sortie dans cette bataille, les croyants avec le messager d'Allah seront tous tués et seront exterminés. Et la religion de l'islam va disparaître. C'est pour ça, dans les arguments, regardez ce que le kuffar et le munafiqin pensent. Et regardez le croyant ce qu'il pense. Vous savez que parmi les plus grands arguments rationnels que nous utilisons pour démontrer que le prophète alayhi salam est un vrai prophète et non pas un imposteur. Rappelez-vous ce que le munafiqin ont dit. Ils ont pensé que les croyants seront tous tués par le kuffar, tellement le nombre de le kuffar était grand. Ils ont dit, ils vont les exterminer et la religion va disparaître. Ça, c'est la pensée de le munafiqin et de le kuffar. Lakin, regardez le muslimin, ils utilisent l'inverse comme un des plus grands arguments rationnels pour démontrer que le prophète A.S. Mohammed est un vrai prophète, sans s'appuyer sur les textes, rien qu'avec ta raison. Et ça, c'est un argument qui sert avec un kafir, qui ne croit pas au livre d'Allah ni à la sunna de son prophète A.S. C'est inimaginable qu'un homme monte sur Allah et dit qu'il est son messager et qu'il reçoit la révélation de sa part matin et soir, et qu'il continue à, et qu'il prétend avoir reçu une révélation, une religion de sa part, et qu'il continue à appeler à cette religion jusqu'à la fin de sa vie. Et Allah, il le laisse. Et même, ses suiveurs ne font qu'augmenter avec les années et les siècles. Et sa religion continue et perdure jusqu'à notre époque. Ça, c'est inimaginable que ce soit une religion falsifiée. Et c'est impossible que ce soit un faux prophète. C'est un vrai prophète. Il n'y a jamais un faux prophète. Bien évidemment, il y a énormément de gens qui ont prétendu être des prophètes, alors que c'est des imposteurs. À l'époque du prophète, avant le prophète, encore aujourd'hui, il y a un frère qui m'a envoyé un nouveau prophète au Togo, la Marthe. Wallah, aujourd'hui j'ai reçu ça. Yani, ça continue. Lakin, est-ce que ces gens vont avoir une da'wa qui va continuer? Jamais de la vie. Jamais aucune da'wa n'a continué. La seule da'wa qui continue, c'est la da'wa d'un vrai prophète. Si Allah, il peut laisser à quelqu'un comme ça, comme épreuve des serviteurs. Lakin, il ne peut pas le laisser éternellement. Il ne peut pas le laisser tout le temps. Sauf si ce n'est pas une vraie divinité. Sauf s'il est impuissant. Amma, il le laisse comme ça tout le temps. Ses suiveurs augmentent sa religion et élevé très haut. Et si vous voulez voir que cette religion, c'est la religion de vérité qui est élevée très haut, regardez toutes les batailles et tous les combats qui sont menés contre la religion de l'islam. Il n'y a personne qui combatte le judaïsme, ni le christianisme, ni le païanisme, ni le bouddhisme. Rien n'est combattu sur terre. Il n'y a que la seule religion de vérité qui est combattue. C'est elle qui fait peur. Amma, le reste, ça ne dérange pas Iblis. Et par conséquent, ça ne dérange pas ses soldats et ses armées. Lakin, la personne, la première personne concernée, c'est Iblis. Ne l'oubliez pas. C'est lui qui connaît le vrai et le faux. Il sait que l'islam, c'est la vérité. Amma, quelqu'un qui adore une croix, où là, il croit que la divinité a été incarnée dans un homme, ou là, Il ne le dérange pas. Au contraire, c'est bien qu'il reste comme ça. Lakin, ce qui le dérange, c'est la vraie religion. La religion de la vérité. La seule religion qui ramène l'homme et qui rappelle l'homme à sa nature humaine saine. La religion de l'islam. L'islam qui signifie soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. À ton créateur. Ton unique créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on résume par rapport au premier verset et au deuxième, le premier, on a vu que ça, c'est la pensée des hypocrites qui ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala allait donner la domination éternelle à ses ennemis et jusqu'à exterminer ses alliés et jusqu'à faire disparaître sa religion. C'est pas possible, sauf si c'est une divinité impuissante. Et dans le deuxième verset, les hypocrites et les associateurs, les païens, qui ont pensé que ce qui se passe est contre la volonté d'Allah. Et contre la volonté d'Allah. Car ils n'ont pas vu la sagesse à travers cela. Et ça comporte une mauvaise opinion vis-à-vis d'Allah. Il n'y a rien qui arrive dans cet univers, et ça, subhanallah, quand tu le comprends, et quand ça rentre dans ton cœur, ça t'aide énormément dans beaucoup d'affaires. Il y en a parmi les choses qu'on vit dans notre époque, ou là, il y en a dans énormément de domaines. De savoir avec certitude que tout ce qui se passe, l'injustice en Palestine, il y en a ce qui arrive pour nos frères Burma, partout, toute injustice, tout ce qui se passe, il est sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le sait. Il est conforme à sa volonté universelle. Il faut faire la distinction entre les deux volontés. Il est conforme à sa volonté universelle. Lakin, il ne le veut pas religieusement. Mais la personne peut ne pas se conformer à la religion. Amma, dans sa volonté universelle, c'est son décret. Subhanahu wa ta'ala, pour des sagesses. Et plus le serviteur connaît Allah, plus il va voir de sagesse. Et plus il va montrer de soumission et d'acceptation de tous les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ces ignorants qui ont pensé que ce qui arrive n'est pas conforme à la sagesse absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'est des choses futiles et impertinentes. Alors que nous savons que tout ce qui arrive est conforme à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani que dire que quand on parle d'un homme, d'une créature, quand on parle d'un homme ou d'une créature, qui agit sans sagesse, sans objectif. Les hommes s'accordent à dire que c'est quelqu'un qui est stupide. C'est de la stupidité. Et c'est une sottise. Quelqu'un qui agit sans sagesse, comme ça. C'est un fou. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Allah a tous ses ordres, et tous ses interdits, et tous ses décrets, et toute sa législation, elle est conforme à sa sagesse absolue. Lakin, nous ne connaissons pas toutes les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut en connaître énormément. On peut en connaître énormément quand on augmente dans la science et quand notre savoir augmente et notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente et la connaissance de sa législation. Wallahi, ikhwa, si vous apprenez le livre le plus simple de l'fiqh, si vous étudiez le livre de l'fiqh le plus simple qui existe, c'est une approche de la jurisprudence islamique. Vous étudiez Manhaj Salikin ou quelque chose, il y en a vraiment qui vous donne un aperçu de la jurisprudence de l'islam. Wallahi, vous êtes impressionné. Yani, j'ai entendu un kafir reconnaître que la législation de l'islam ne peut pas être la législation d'un homme, ne peut pas être la loi d'un homme. C'est forcément une loi divine. Yani, regardez, toutes les lois humaines, ils ont besoin de les modifier, de les adapter. Cette loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est valable pour toute époque, et pour tout temps, et pour tout endroit, tout pays. Et dans cette loi, tu ne trouveras jamais les failles que tu trouves dans les lois humaines. Vous savez que quand vous avez un bon avocat, il arrive toujours à vous trouver les failles dans les lois, et à innocenter le plus grand criminel. Que tous les juges s'accordent à dire que c'est lui qui a commis les crimes, lakin on n'a pas les éléments. Amma dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une loi qui s'adresse tout d'abord à ton intention, à ta sincérité. Et regardez tous les détails, si vous prenez un seul chapitre de l'fiqh, et regardez tous les détails qui sont mentionnés. Tout ça, ça a été inventé par le prophète, il y a plus de 15 siècles. C'est impossible. Dans les détails, et dans les précisions, et dans la perfection. Et c'est une loi que tu n'as pas besoin d'adapter. Elle est toujours valable. C'est tout simplement la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a créé l'homme. Et il sait ce qui lui convient. Et ce qui est meilleur pour lui. Dans ses affaires mondaines et dans l'au-delà. Fi ma'ashihi wa fi ma'adihi subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous ai résumé les propos de l'imam Ibn al-Qayyim dans lesquels il a parlé de ces trois catégories de personnes qui ont en commun le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser d'Allah autre chose que la vérité. La première catégorie, c'est ceux qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire à ses ennemis d'une manière permanente. Na'am, les kuffars, ils peuvent dominer les croyants pendant une période. Là, qu'ils ne peuvent jamais les dominer dans leur intégralité. Ça n'arrive jamais. Car il y aura toujours Al-Sunna wal-Jama'a qui auront la domination, ne serait-ce qu'avec les preuves et les arguments. Et même cette domination qu'Allah donne à des kuffars sur des muslimines, ça sera pour une période déterminée, pour des sagesses de sa part, subhanahu wa ta'ala. Peut-être pour que les croyants reviennent à leur religion. Et nous, on n'utilise pas ces arguments pour légitimer les massacres qui puissent arriver dans certains endroits contre nos frères et nos sœurs musulmans. Lakin, si tu connais la réalité de certains endroits dans lesquels il y a eu des massacres et des crimes abominables, tu peux comprendre pourquoi ça arrive. Et tu vas constater un éloignement incroyable des bases de l'islam et des croyances qui s'opposent totalement à l'islam. Lakin, en apparence, c'est des musulmans. Pour nous, c'est des musulmans. En apparence, la règle, c'est ça. Lakin, ça te permet de comprendre. Amma, on n'a jamais vu des mouahidines yani, dominés par le kuffar de cette manière. Est-ce que vous pouvez imaginer sahaba, ils sont dominés de cette manière? Sahaba, il y a un début de défaite dans la même bataille. Et par la suite, un retournement de situation dans la même bataille. Lakin, on peut être vaincu pendant une centaine de batailles. L'âge, à cause de notre éloignement de... On ne parle pas de l'éloignement de la religion d'une manière générale. L'éloignement de Tawhid, il y a des endroits sur Terre, des pays qui sont peut-être massacrés aujourd'hui. Les gens, ils ont des croyances incroyables qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il croit que l'allié d'Allah, il peut créer, il peut faire. Ah, là, c'est pas un musulman. Tellement l'ignorance est répandue dans ces pays-là. Et nous ne nous disons pas que, comme certains égarés, certains sectaires ont dit, ça c'est une purification. On déteste ça. Et on rejette l'injustice. Lakin, ça peut t'aider à comprendre certaines choses dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, revenons à notre religion et nous aurons la promesse d'Allah. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ Allah, certes, accordera la victoire et le triomphe à ceux qui font triompher sa religion et sa législation. Et la religion, c'est tout d'abord tawhid. Ça, c'est la première catégorie. Ceux qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner une domination permanente aux kuffars sur les muslimines jusqu'à les exterminer et faire disparaître la religion de vérité. Ça ne peut jamais arriver. Cette religion, c'est une religion d'espoir. Regarde quand tu lis les hadiths du prophète. Toujours tu vois quand est-ce que les croyants auront la victoire, le triomphe. Donc, il n'y a pas de place au désespoir dans la religion de l'islam pour celui qui l'a compris. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui remettent en cause les décrets d'Allah. Qui remettent en cause les décrets d'Allah et qui ne voient pas les sagesses. C'est pas, ils disent, nous, on ne connaît pas les sagesses. Non, ils nient qu'il puisse y avoir de sagesse dans les décrets d'Allah. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui pensent qu'il peut y arriver des choses dans la création d'Allah contre la volonté d'Allah. Tout ce qui arrive dans la création d'Allah, il est conforme à sa volonté universelle qu'on appelle son décret. Voilà mes frères pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Donc nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala. Et inshallah, la semaine prochaine, on va essayer de commencer sans perdre de temps, comme ça nous est arrivé aujourd'hui, afin de laisser place à des questions si jamais vous avez des questions. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.